Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. L'exécutif promet la vaccination d'un million de personnes d'ici la fin du mois. Mais les doses de sérum vont-elles suivre? Y aura-t-il un retard ou une pénurie? Nous poserons la question aux professionnels d'un EHPAD à Paris en début de journal. Et puis nous irons en Allemagne à Berlin où, faute de vaccins suffisants, les vaccinodromes sont quasi vides.
Hier soir aussi, le gouvernement a confirmé la fermeture des lieux culturels au moins jusque début février. Les professionnels espèrent reprendre avant les prochaines vacances scolaires. Il s'explique dans un instant.
Après cette édition, la crise sanitaire encore avec le billet politique. Frédéric Saïs s'intéresse au président de région qui multiplie les apparitions médiatiques. Avant cela, Jarnac et un hommage ce matin à François Mitterrand, mort il y a tout juste 25 ans. Emmanuel Macron n'en fera toutefois aucune récupération politique, voilà ce que nous dit l'Élysée.
Un policier est mort des suites de ses blessures après les affrontements avec des partisans pro-Trump au Capitole. Son chef démissionne quand le président condamne finalement les violences.
Donald Trump qui est accusé par son successeur Joe Biden d'être responsable des événements du Capitole. Nous rejoindrons notre correspondant à Washington. 300 centres de vaccination d'ici la semaine prochaine un peu partout sur l'Hexagone, puis le double, 600 à la fin du mois. Voici donc la stratégie du gouvernement pour arriver à son objectif, vacciner au moins 1 million de Français lors des 3 prochaines semaines. Pour le moment, seules 45 000 personnes l'ont été en 5 jours. Alors pour accélérer le processus, l'exécutif ouvrira bientôt la vaccination aux personnes de plus de 75 ans. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'annonçait hier soir.
Le moment est venu de nous préparer à élargir la liste des personnes pouvant bénéficier de la vaccination. Je parle des quelques 5 millions de Français qui sont âgés de 75 ans et plus. Si vous êtes dans cette situation, vous pourrez à partir de la semaine prochaine prendre rendez-vous en vue d'être vacciné et la vaccination pourra commencer le 18 janvier prochain. Je le dis tout de suite, cette vaccination, elle sera nécessairement progressive, elle prendra plusieurs semaines. Au fur et à mesure, chacun peut le comprendre, que les laboratoires nous fourniront les doses de vaccins.
Le besoin de sérum, c'est peut-être bien ça qui coince en ce moment. En tout cas, Anne Fauquemberg pour France Culture a pu le constater dans un EHPAD parisien. EHPAD où l'enjeu reste toujours l'adhésion par les résidents, l'adhésion à la vaccination. Voici son reportage.
Je pique. Ça va, toujours ? Voilà, c'est fini.
Dans le 20e arrondissement de Paris, la résidence des Amandiers du groupe Corian est un peu à l'image de la France, divisée sur le nouveau vaccin. Sur 118 pensionnaires, 52 ont donné leur consentement pour l'instant, un peu moins de la moitié donc. Et d'ici ce soir, 33 seront vaccinés, comme Françoise Jaxis, elle a 90 ans.
Je me suis dit, c'est une question d'hygiène, d'épidémie, et qu'une vaccination comme celle-là est toujours utile. Pour tout le monde.
Après l'injection du vaccin, les seniors se reposent 30 minutes dans un espace dédié. Odette Stein, 76 ans, reprend ses esprits. Elle se posait pas mal de questions.
J'avais entendu dire que quand on a eu des allergies, ça pouvait poser un problème. J'en ai parlé à un médecin, ici à un médecin qui est venu me voir et elle m'a dit que ça posait aucun problème.
Cet EHPAD parisien table sur un effet d'entraînement et a pris soin d'associer les familles des résidents. Marie-France Carré les représente, mais cette médecin à la retraite n'est pas encore rassurée par la stratégie vaccinale du gouvernement.
Je comprends pas qu'on puisse pas vacciner tous les soignants qui sont auprès des personnes âgées. Et ça, c'est uniquement, probablement, parce qu'on n'a pas assez de vaccins. Je ne pense pas que ce soit la volonté de Corian, c'est les possibilités, ce qui n'est pas pareil.
Une dizaine de salariés et de médecins de ville intervenant dans l'EHPAD ont été vaccinés, nuance le directeur du site. Mais il est vrai que pour obtenir les 10 flacons permettant les 50 premiers vaccins, la pharmacienne en charge de la livraison confirme avoir dû se battre auprès de Santé publique France, notamment.
Anne Fauquemberg. En Allemagne aussi, la vaccination fait débat en ce moment en raison du trop faible nombre de doses de vaccins disponibles. Tout le dispositif pourtant est en place depuis des semaines, mais dans la capitale à Berlin, un seul centre peut fonctionner, Nathalie Versieux.
Une petite queue s'est formée devant le seul des 6 centres de vaccination ouverts à Berlin. 500 à 600 personnes sont vaccinées chaque jour dans la Arena, une salle de spectacle reconvertie, du personnel médical et des personnes âgées de plus de 80 ans. C'est peu au regard des capacités du centre conçu avec 80 cabines individuelles pour vacciner 5000 personnes par jour. 20 000 au total dans la capitale lorsque les stocks de sérum permettront enfin aux 6 unités de vaccination de fonctionner à plein régime. Du côté des sorties, Marcus, 35 ans, infirmier en service de soins intensifs dans un hôpital de la ville.
L'organisation est hautement professionnelle. Les données sont d'abord contrôlées, on est ensuite accompagné vers une cabine individuelle où se trouvent 2 médecins et un soldat de la Bundeswehr. Les données sont de nouveau contrôlées et on reçoit le vaccin. On a ensuite la possibilité de se reposer dans un espace prévu à cet effet et on peut partir.
Aujourd'hui, Berlin devrait recevoir une seconde livraison de vaccins de la start-up allemande BioNTech et du géant pharmaceutique américain Pfizer. De quoi poursuivre le travail des équipes mobiles qui font la tournée des maisons de retraite et peut-être aussi ouvrir enfin dans les prochains jours les 5 autres centres prêts à fonctionner dans 2 anciens aéroports ou dans le palais des expositions de la ville. Plus de 300 000 personnes ont été à ce jour vaccinées en Allemagne. C'est trop peu aux yeux de l'opinion qui met en cause la stratégie d'achat du gouvernement et de l'Union européenne.
Et si les pays membres de l'Union européenne se sont accordés sur le choix des vaccins, les mesures sanitaires en revanche diffèrent d'un territoire à l'autre. C'est toujours le cas pour ce qui concerne la culture. Hier soir, le Premier ministre français a confirmé que la réouverture des lieux culturels ne sera pas possible avant la fin du mois. Cela n'a pas surpris le délégué général de la Fédération nationale des cinémas français, mais Marc-Olivier Sebag espère maintenant une reprise de l'activité pour les prochaines semaines les prochaines vacances scolaires, en tout cas avant les vacances. Ce serait logique, dit-il, au vu de la situation dans d'autres pays.
Dans les autres pays d'Europe, en Espagne, les cinémas sont ouverts. Au Luxembourg, ils rouvrent le 13 janvier. En Allemagne, à la fin janvier. Donc, vous voyez, on est dans un rythme qui est cohérent hein, au niveau européen. Et s'il n'est pas tenu, ça sera un gros problème. Nous avons 2 revendications spécifiques qui sont d'une part ouvrir avant les vacances de février et là on nous a donné un programme de travail, nous verrons comment ça se déroule. La déception naîtra si cet objectif n'est pas rempli. Et la deuxième revendication, elle concerne les dispositifs scolaires d'éducation au cinéma. C'est 3 millions d'élèves chaque année qui vont au cinéma par ces dispositifs et nous ne comprenons pas pourquoi ces classes ne peuvent pas se déplacer pour venir au cinéma alors qu'elles peuvent aller au gymnase, à la piscine, dans des salles des fêtes pour avoir des activités encadrées, alors qu'elles ne peuvent aller ni au cinéma, ni au théâtre, ni au musée, avec les mêmes enseignants, avec les mêmes classes. C'est totalement incompréhensible. Donc ça, c'est une demande que nous avons de façon récurrente et que nous allons réaffirmer ce vendredi auprès du ministère de la Culture.
Car une réunion est en effet prévue rue de Valois cet après-midi pour les secteurs les plus touchés, musées, monuments, spectacles vivants et donc cinéma. C'était Marc-Olivier Sebag interrogé par Benoît Grossin. Même attente et mêmes inquiétudes pour les bars et les restaurants toujours fermés. Il faudra là attendre à minima la mi-février. Pas de réouverture non plus pour les remontées mécaniques dans les stations de ski. Enfin, notons que les arrêts de travail pour cause de Covid-19 vont être simplifiés. Plus de jours de carence et une inscription directement sur le site de l'assurance maladie. Ce protocole dans le secteur privé et public sera mis en place ce dimanche. D'une épidémie à l'autre, chez les volailles cette fois, la grippe aviaire est hors de contrôle dans le sud-ouest du pays, principalement dans les Landes. Le nombre de foyers d'infection a doublé en une semaine. Cet après-midi, le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, se rendra dans le département des Landes. C'est à Jarnac que sera en fin de matinée aujourd'hui Emmanuel Macron. Jarnac en Charente, où se trouve le caveau familial des Mitterrand. Hommage à l'ancien président, décédé il y a 25 ans. Mais l'Élysée insiste, il ne faudra pas y voir un hommage politique, Sophie Delpont.
À ceux qui verraient dans ce déplacement un clin d'œil appuyé aux électeurs de gauche, l'Élysée tient à le préciser d'entrée. Ce serait hors sujet, répète un conseiller qui ajoute que, comme il y a eu une année de Gaulle, cette année est un peu l'année Mitterrand, annonçant dans la foulée un discours d'Emmanuel Macron pour les 40 ans du 10 mai 81. et un hommage rendu le 9 octobre prochain pour célébrer les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Selon l'entourage d'Emmanuel Macron, l'hommage de ce matin vise à incarner la République de transmission, 2 mois après le déplacement à Colombey les deux églises, pour les 50 ans de la mort du général de Gaulle. Le but est de contribuer à la construction de la mémoire commune, précise l'Élysée. L'idée de saluer la mémoire de François Mitterrand comme celle de Georges Pompidou, de Valéry Giscard d'Estaing et de Jacques Chirac. Aucune tentative de récupération, insiste un conseiller qui ajoute, d'autant plus qu'une partie de la gauche n'est pas à l'aise avec l'héritage de François Mitterrand. Le président n'aurait donc aucun intérêt à se lancer dans un exercice politique à haut risque, selon ses mots. Son entourage précise que le chef de l'État regarde aussi en face les complexités du parcours de François Mitterrand. Le chef de l'État garde donc ses distances avec le premier président socialiste de la Ve République, loin de la pyramide du Louvre, symbole mitterrandien devant laquelle il avait mis en scène sa victoire de 2017.
Pour y revenir, Paul Quilès, plusieurs fois ministre sous les septennats de Mitterrand, sera l'invité du journal de midi et demi ce vendredi sur France Culture. Lors de la cérémonie à Jarnac ce matin, seront également présents des socialistes, l'ancien président François Hollande notamment, Ségolène Royal ou Olivier Faure. Près du cimetière également ce matin, il pourrait y avoir quelques salariés de Veralia qui souhaitent interpeller Emmanuel Macron. Leur usine est située à quelques kilomètres de Jarnac, à Château-Bernard, entreprise qui fabrique et qui recycle des bouteilles et des bocaux en verre et qui est sous le coup d'un plan de licenciement. Les salariés en grève n'ont pas obtenu de réponse de la part du ministère de l'Économie. Ils s'adressent donc au président de la République. Interrogé par Timur Özturk, Dominique Spinali, le délégué central de la CGT Veralia, s'en explique.
J'ai écrit pour rencontrer soit un conseiller de M. Macron, soit M. Macron en personne pour parler de l'avenir de Veralia, l'avenir de l'industrie française, d'écologie, de recyclage du verre et tout ça. Aucune réponse pour le moment. Et c'est dommage que M. Macron ne veut pas discuter avec nous. C'est faire fabriquer des bouteilles à l'étranger, mettre des camions sur la route, je trouve ça inadmissible, sachant que tous les sites de Veralia sont à 100, au maximum 200 km des producteurs. Nous, on veut des faits concrets. Éviter les licenciements secs et ils doivent avoir un vrai projet pour développer Veralia.
Même si vous n'avez pas eu de réponse de l'Elysée, vous allez le rencontrer à la sortie du cimetière de Jarnac.
Voilà, et oui, on sera peut-être 100, 200 personnes. Ils parlent de dialogue et s'ils refusent cette rencontre, je trouve ça un peu dommage.
Attention aux coups de froid ce matin et aux coupures d'électricité. Le gestionnaire du réseau RTE met en garde et propose il faudrait réduire la consommation d'électricité ce matin dans tous les foyers entre 7h et 13h.
8h12 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le chef de la police du Capitole démissionne à Washington.
Oui, 24 heures après l'intrusion dans le bâtiment de partisans de Donald Trump. Intrusion violente qui a causé la mort d'une militante et d'un policier également. Nous avons appris son décès ce matin des suites de ses blessures. Conséquences lourdes donc pour un président de plus en plus isolé. Deux ministres de Donald Trump ont d'ailleurs démissionné ces dernières heures. Donald Trump qui a pris la parole dans la soirée hier sur Twitter. Il dit maintenant souhaiter une transition du pouvoir sans accroc, tout en condamnant aussi fermement que possible les violences du 6 janvier au Capitole. Changement de ton donc, alors que son successeur Joe Biden l'avait un peu plus tôt accusé d'avoir miné la démocratie, Sébastien Paour.
Joe Biden parle de la journée de mercredi comme de l'une des plus sombres de l'histoire des États-Unis et elle n'a, selon lui, qu'un seul responsable. Ces 4 dernières années, nous avons eu un président qui a clairement exprimé son mépris pour notre démocratie, notre constitution et l'état de droit dans tout ce qu'il a fait. Il a lancé un assaut total contre les institutions de notre démocratie. Et hier n'était que le point culminant de cette attaque implacable. Trump a utilisé le langage des dictateurs pour Biden et n'a agi que dans son propre intérêt. Il pensait pouvoir remplir les tribunaux avec des juges amicaux qui le soutiendraient quoi qu'il arrive. Ce seraient les juges Trump. Ses juges. Il est allé jusqu'à dire qu'il avait besoin de 9 juges à la Cour suprême parce qu'il pensait que l'élection se jouerait là et qu'il lui attribuerait le résultat. Joe Biden n'évoque jamais une éventuelle destitution de son prédécesseur, mais il endosse encore un peu plus son futur costume de président et rappelle qu'aucun locataire du bureau ovale n'est au-dessus des lois.
C'était Sébastien Paour à 12 jours maintenant de la passation de pouvoir à la Maison Blanche. Et de l'autre côté de la planète, des responsables russes prophétisent le déclin de l'Amérique. La fête de la démocratie est terminée, déclare une figure de premier plan du Parlement russe qui semble donc se réjouir des divisions observées. Mais en Russie, sur place,
place. Le patriotisme vanté par le pouvoir tient-il encore? Le sens du sacrifice pour le pays, né en grande partie de la Deuxième Guerre mondiale, est-il si solide qu'on veut bien le dire? Question posée pour le grand reportage de ce soir sur France Culture, question posée par notre correspondant à Moscou, Claude Brouillot. Et pour cela, il a notamment rencontré Volodia, 58 ans, chauffeur de taxi, et Dimitri, 20 ans, étudiant.
C'est une question compliquée à laquelle il est difficile de répondre en deux mots. Premièrement, il faut aimer son pays et aimer les gens qui vivent là. Et moi, j'aime vraiment mon pays et ses habitants. L'essentiel aussi, c'est de comprendre nos problèmes, ce qui veut dire bien les analyser. Et ensuite, nous devons être unis pour mieux les résoudre. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes deviennent de plus en plus compliqués.
Être patriote, ce n'est pas seulement honorer le passé et tout ce qui a eu lieu pendant la guerre, c'est aussi respecter les vivants en leur donnant des conditions de vie meilleures. Ce n'est pas bien quand on montre seulement la vitrine, quand on prononce de belles phrases mais qu'on ne fait rien. Dans ces conditions, c'est très difficile d'être patriote.
Le patriotisme en Russie, un dogme du quotidien. Voici donc le grand reportage de Claude Brouillot qui sera diffusé en longueur ce soir à partir de 17h. Il a été réalisé grâce à Annie Brault et sera présenté par Aurélie Kiefer. La météo en France métropolitaine ce vendredi, la grisaille sera omniprésente avec quelques pluies sur la pointe bretonne et des températures toujours froides. Ce matin, il fait moins 9 degrés à Bourg-Saint-Maurice, 0 à Paris et La Rochelle, 2 degrés à Brest, 4 degrés à Marseille, Guillaume.
Merci Clara. Le Coq-Réal. Tout d'abord, une rectification. L'affaire d'inceste qui a touché la famille de Villiers concerne les deux fils de l'élu vendéen Laurent et Guillaume. Il n'y a pas eu de renvoi aux assises pour viol. Mes excuses pour ce qui a été dit tout à l'heure. On va évoquer l'inceste dans quelques minutes suite aux révélations de Camille Kouchner dans son ouvrage Familia Grande, publié aux éditions du Seuil. Nous serons en compagnie de l'historienne Fabienne Giuliani et de l'avocat Rodolphe Constantino. Dans une trentaine de minutes environ, nous serons en compagnie de mes camarades Hervé Gardette, Géraldine Mosna-Savoie et Arnaud Laporte pour la transition, le carnet de philosophie et pour savoir à quoi pense un artiste. Et puis dans quelques instants, un billet politique avec vous, Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Et ce matin, vous allez nous parler des régions.
Oui, depuis la fusion des régions il y a 5 ans, elles sont devenues plus vastes, plus peuplées, plus riches. Conséquence, les régions sont aussi devenues de formidables bases arrières pour les candidats ambitieux, des candidats que l'on voit partout en ce moment.